Bonsoir à tous. Kaboul encerclé, armée américaine sur le départ. Rien ne semble empêcher les talibans de prendre le pouvoir en Afghanistan. La France déplace son ambassade à l'aéroport de Kaboul et déploie des soldats pour évacuer ses ressortissants. On fait le point dans un instant. Fini la tolérance face au pass sanitaire dans les restaurants. Dès demain, les sanctions vont tomber. Les restaurateurs s'inquiètent, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Gerd Müller, légende du football allemand, est décédé. Avec le Bayern Munich, il avait disputé la finale perdue de l'AS Saint-Étienne en Coupe d'Europe en 76. Hervé Revelli se souvient.
France Inter.
Évacuation des diplomates américains, fermeture de plusieurs ambassades européennes. Les ressortissants occidentaux quittent peu à peu l'Afghanistan. L'ambassade de France à Kaboul a été déplacée à l'aéroport. Paris déploie des renforts militaires aux Émirats Arabes Unis pour évacuer les Français encore sur place. Et demain, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense sur la situation. Les habitants de Kaboul, eux aussi, tentent de fuir la capitale afghane, encerclée par les talibans. Même le président afghan Ashraf Ghani a quitté le pays ce soir. Rien ne semble empêcher les insurgés de prendre le pouvoir. La progression des talibans jusqu'à Kaboul a été rapide, seulement quelques jours. Cela ne surprend pas la chercheuse Myriam Benraad, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient.
Tout d'abord, je pense qu'il faut souligner que les talibans y étaient déjà, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la main mise sur la capitale. Mais Kaboul a connu, souvenez-vous, des attentats dramatiques qui ont touché un certain nombre de cibles dans le collimateur des islamistes, des djihadistes. Donc, de ce point de vue, il faut savoir que cette présence, elle était là. Il y avait des complicités, un certain soutien, même s'il était limité. Et puis surtout, l'armée afghane, les forces afghanes ont montré à quel point elles étaient artificielles en quelque sorte. Bon, non seulement corrompues, impossible d'agir sans le soutien aérien américain puisque les États-Unis se retirent et que la campagne de frappe est très limitée. Et au-delà de ça, un certain nombre ont déserté, un certain nombre ont aussi rejoint les talibans à présent, voyant que le vent tournait. Donc il faut vraiment pas s'attendre, en tout cas, à ce que le gouvernement régulier, entre guillemets, puisse opposer une résistance. En l'état, c'est terminé, les jeux sont faits, je pense.
La chercheuse Myriam Benraad au micro d'Armand Perrouloga de France Info. 724 morts en Haïti après le tremblement de terre d'hier. C'est le nouveau bilan de la protection civile qui recense également 2800 blessés. Un séisme de magnitude 7,2 a fait trembler le pays, notamment le sud-ouest de l'île. Les secours s'activent toujours pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Et l'aide internationale s'organise pour aider les habitants de nombreux pays voisins dont les États-Unis ont proposé leur assistance. La semaine de tolérance pour le pass sanitaire en France, c'est fini à partir de demain. Depuis lundi dernier, le pass est nécessaire pour aller au restaurant ou boire un café. Le gouvernement a promis une semaine de rodage pour les professionnels, mais demain c'est terminé. Les sanctions vont donc commencer à s'appliquer pour les clients comme pour les restaurateurs. Dans la Creuse, certains refusent toujours de flasher les QR codes. Marie-Jeanne Delépaule.
Personne ne souhaite le dire publiquement à la radio, mais hors micro, une poignée de restaurateurs nous confie qu'ils n'ont rien demandé à leurs clients la semaine dernière et qu'ils ne comptent pas du tout changer. Pour eux, contrôler, ce n'est pas leur métier, pas leur philosophie, et c'est très compliqué, notamment pour les guinguettes et les sites en plein air. Ceux, en tout cas, qui ne respectent pas la loi, dès aujourd'hui, risquent gros, explique Éric Gigou, le commissaire divisionnaire de Guéret.
Si un client se retrouve attablé, en salle, en terrasse, sans passe sanitaire, cela veut dire que le commerçant n'a pas effectué le contrôle. Donc lui risque une fermeture administrative, jusqu'à 7 jours de fermeture, ce qui est terrible pour un commerce, bien évidemment. Quant au client, lui, il va risquer une amende de 135 euros. Nous ne courons pas après des délinquants ou des criminels. Nous essayons ensemble, avec leur aide, de stopper ce virus qui nous empoisonne, sans faire de mauvais jeu de mots, la vie depuis un an et demi. Essayons ensemble de lutter et de l'éradiquer grâce aux scientifiques.
Il va donc organiser des patrouilles dans les commerces et faire des contrôles aléatoires des clients.
Jeanne-Marie Delepaule de France Bleu Creuse. Tolérance ou pas, eux n'en veulent pas du tout du pass sanitaire. Ils étaient 215 000 à manifester hier partout en France contre cette mesure. C'est moins que samedi dernier. Il y avait 22 000 personnes à Toulon dans le Var, près de 14 000 à Paris. Paris où une enquête a été ouverte après le signalement de pancartes antisémites présentes dans le cortège parisien des antipasses. À Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, la stèle érigée en l'honneur de Simone Veil a encore été vandalisée pour la 4e quatrième fois en 15 jours. La fois précédente, elle avait été recouverte de croix gammée. Rescapée d'Auschwitz, Simone Veil a été ministre de la Santé. Elle a laissé notamment son nom à la loi légalisant l'avortement en 1975. Les universités françaises remontent dans le classement de Shanghai 2021, le palmarès mondial des universités. Les établissements américains confirment leur hégémonie. 16 d'entre eux figurent dans le top 20. Au total, la France compte 30 établissements au classement avec une université de région parisienne dans le fameux top 20, Laura Lavenne.
Oui, on peut dire merci à l'université Paris-Saclay, 13e au classement général, première en mathématiques. Celle qui regroupe notamment Centrale, Supélec et AgroParisTech gagne une place par rapport à l'an dernier. C'est elle qui permet à la France de figurer dans le top 20, d'être le troisième pays au monde à s'y faire une place, avec les États-Unis loin devant et le Royaume-Uni, et cela deux années consécutives, autrement dit depuis son entrée l'an dernier au classement. Dans le top 50, on trouve également la Sorbonne, classée 35e, et Paris Sciences et Lettres, qui regroupe l'École Normale Supérieure et l'École des Mines, classée 38e. De quoi rendre très fière la ministre de l'Enseignement Supérieur. Frédéric Vidal y voit la preuve de l'excellence française dans une période où, dit-elle, notre pays n'a jamais eu autant besoin de ses scientifiques.
Notez aussi que deux établissements français font leur entrée au classement, l'INSA de Toulouse et l'École de commerce de Montpellier. Il était l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Gerd Müller est mort aujourd'hui, il avait 75 ans. Avec le Bayern Munich et l'équipe d'Allemagne, il avait tout gagné. La Coupe du Monde en 74, l'Euro en 72 et puis trois Coupes d'Europe, dont une en 76, aux dépens de l'AS Saint-Étienne. Les Verts avaient à l'époque pour attaquant Hervé Revelli. Il se souvient du joueur incroyable qu'était Gerd Müller, ballon d'or en 1970.
Ah, Gerd Müller, c'était l'attaquant de pointe. Il ne se posait pas de questions. On l'appelait la fouine parce que même par terre, il était dangereux. Même battu, c'était un gars qui se démenait sur tous les ballons. Tout ce qui traînait dans les 18 mètres, c'était danger pour l'équipe adverse. On l'appelait bomber, c'était pas pour rien. Hein. Une occasion, lui, c'était au fond. Il n'y avait pas besoin de 4 ou 5. Hein. Et le reste, à côté, c'était d'autres volées aussi. Hein. Bayern, à l'époque, c'était pratiquement 90% de l'équipe nationale. Champion d'Europe, champion du monde, c'était une équipe très, très redoutable. J'ai eu la possibilité de jouer souvent contre lui, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il parlait un peu le français, donc on a eu parlé ensemble, c'est vrai. Mais c'est un gars qui était vraiment sympa.
L'ancien attaquant de Saint-Étienne, Hervé Revelli, joint par Alexandre Berthaud. Saint-Étienne qui joue justement en France pour la deuxième journée de Ligue 2. En ce moment contre Lens, il y a un partout à la mi-temps entre les deux équipes. À 20h45, Marseille recevra Bordeaux. C'est même Jean-Pierre Papin qui donnera le coup d'envoi 30 ans après avoir reçu son ballon d'or sous le maillot olympien. Du côté des autres matchs du jour, égalité entre Reims et Montpellier, 3 partout. Pour le derby breton, égalité également entre Brest et Rennes 1 partout. Clermont a battu 3-2-0. Victoire de Nantes face à Metz 2-0. Et puis, plus tôt dans l'après-midi, Angers a corrigé Lyon en le battant 3-0.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
La météo de demain, c'est avec vous, Jean-Michel Golinski.
Fin des très fortes chaleurs ce lundi pour les régions du quart sud-est, où le maximum sera de 33 à 35 degrés. Pour l'heure, surtout en raison d'une nuit encore étouffante, les 5 départements de la zone sont maintenus en vigilance orange canicule. Sur le reste du pays, les valeurs vont également bien baisser, évoluant entre 20 degrés l'après-midi près de la Manche et 25 du sud-ouest aux Alpes. Avec un lundi très ensoleillé mais venté sur la Corse et du Golfe du Lion à la région PACA. Ailleurs, malgré le retour d'éclaircies l'après-midi entre la Manche et la Loire, une partie de la journée va se dérouler sous un ciel maussade dans la moitié nord, des pluies que l'on va retrouver l'après-midi du Grand Est aux Alpes et dans le quart sud-ouest, la grisaille évoluera très lentement.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.